Bonjour. Alors Brigitte et moi, on est contents d'être là. Donc je m'appelle Daniel. On sera encore là toute la semaine prochaine. Et donc, effectivement, mardi soir, il y aura l'étude biblique sur Jean 12, je crois. Ouais, 12 ou 13, je ne sais plus. Donc, je regarde. Enfin, voilà. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la possibilité d'être ensemble ce matin. Merci pour la liberté de culte, la capacité que nous avons à nous réunir, à passer du temps ensemble, à chanter, à louer ton nom, à prier et à entendre, Seigneur, ta parole. Seigneur, nous voulons prendre conscience que ces choses-là ne sont pas données à tous de cette façon-là. Seigneur, et te remercier pour ce privilège que nous avons. Seigneur, nous prions pour que nos cœurs soient ouverts, que nos esprits soient ouverts. Que ta parole, Seigneur, puisse faire son effet depuis les premiers mots qui ont été dits ce matin jusqu'à la fin. Seigneur, que ton nom soit exalté. Amen. J'aimerais que nous lisions dans la première lettre aux Thessaloniciens les 10 premiers versets. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 10. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. L'église de Thessalonique a été fondée par Paul dans les années 50 à peu près. Et lors de son deuxième voyage missionnaire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette implantation d'église a été hyper rapide. Il a fallu 3 semaines à Paul. 3 fois, il est allé prêcher dans une synagogue. Et au bout de 3 semaines, l'église était implantée à Thessalonique. Extraordinaire, n'est-ce pas? Donc rapidement, s'est formé un groupe composé de juifs, de grecs, des grecs qui aimaient le Seigneur, qui aimaient Dieu. Et aussi, il est dit, de nombreuses femmes issues de la bourgeoisie. Étonnant. Ça, vous lisez, ce sont les détails que vous lisez dans les Actes. Et donc, Paul écrit à deux reprises aux Thessaloniciens. Nous avons là donc lu l'intro de la première lettre. Et les renseignements qu'on a dans ces deux épîtres nous parlent des difficultés qu'ils ont un petit peu. Et aussi, on a cette conscience que l'église de Thessalonique est dans l'attente du retour imminent du Seigneur. Ça transparaît, n'est-ce pas, beaucoup dans les propos. Ils attendaient le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette attente a plusieurs effets dans leur façon de se comporter ou d'être ensemble en Église. Ils avaient pour certains des craintes que lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, ceux qui sont décédés, eh bien, soient oubliés. Et donc Paul va les rassurer en leur disant, mais non, le Seigneur les prendra avec eux. Il y en avait aussi qui avaient des problèmes pour chercher du boulot. Ils ne voulaient pas travailler. En fait, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas travailler, mais je ne sais pas moi si je vous dis le Seigneur Jésus va revenir la semaine prochaine. Peut-être qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'iront pas au boulot lundi. À quoi bon finalement, hein? À quoi bon s'échiner au travail pour un salaire qu'on ne verra pas arriver sur son compte? C'était un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y avait là des gens d'un côté qui étaient aisés dans l'assemblée et de l'autre il y avait des gens sans doute qui étaient des journaliers qui cherchaient du travail tous les matins. Et ceux-là, ils hésitaient à aller au boulot. Et Paul leur dit non, il faut continuer à travailler, il faut continuer à chercher du travail. Donc Paul écrit pour régler quelques problèmes, mais il écrit aussi pour parler de choses qui sont très positives, et je vais m'arrêter sur ces choses très positives. Le texte que je viens de lire, si vous en rappelez, montre que ce n'est pas le nombre des années qui fait la qualité d'une église, mais le sérieux de la conversion. N'est-ce pas ? En 3 semaines, Paul dit, vous êtes un modèle. Ici, on a combien d'années au compteur ? Ne me répondez pas, je le sais. Et ce n'est pas qu'ici, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'années au compteur. Est-ce qu'on est un modèle? Le sérieux de la conversion. Paul dit au verset 6, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Et au verset 9, il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles et pour servir le Dieu vivant et vrai. Pas le Dieu mort et faux, le Dieu vivant et vrai. Il dit ça pourquoi? Parce qu'évidemment, les idoles sont mortes, et elles sont fausses. Les chrétiens attendaient le retour du Seigneur à cette époque-là déjà. Aujourd'hui, nous attendons aussi le retour du Seigneur, n'est-ce pas? On essaye de deviner dans les événements du monde le temps qui nous sépare de la venue du Seigneur, n'est-ce pas? En fait, depuis que je suis tout petit, moi, je n'entends que ça. Mes parents étaient des évangéliques aussi. Et donc, j'ai tout entendu entre le péril rouge, le péril jaune, le péril vert islamique, aujourd'hui, c'est, je sais pas, SpaceX, c'est l'IA. En fait, il y a depuis tout le temps ces essais de lire dans les événements du monde le retour du Seigneur Jésus. Vous savez quand c'est le retour du Seigneur Jésus ? C'est le jour où vous vous arrêtez de respirer. La mort va vous rapprocher de Christ de façon absolument extraordinaire. Et je peux vous dire que ça peut venir très vite. Ça ne prend pas beaucoup de temps de mourir, en fait. Il y a quelques semaines, on m'a dit que j'étais à 1% de la mort. Artère bouchée à 99%. Il ne faut pas beaucoup de temps pour mourir. Et le temps que nous avons en vie, c'est le temps qu'il nous faut consacrer pour préparer ce qui vient après la vie. Donc ils attendaient le retour du Seigneur. Mais je ne vais pas vous parler des différentes interprétations concernant le retour de Christ. Mais une chose est sûre, c'est que tous les chrétiens attendent le retour du Seigneur. Et comment est-ce qu'on attend le retour du Seigneur ? Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend le retour du Seigneur ? Parce qu'on dit on attend le retour du Seigneur, mais est-ce qu'on y croit que le Seigneur va revenir ? Est-ce qu'on vit comme si on croyait effectivement que le Seigneur allait revenir ? Est-ce que nous vivons notre foi aujourd'hui comme si Jésus allait revenir dans une heure ? Si le Seigneur vient aujourd'hui, maintenant, s'il rentre dans cette pièce, vous savez comment il est, n'est-ce pas ? Il va regarder chacun comme ça. Et en même temps qu'il nous voit, il nous scanne complètement tout ce qui est visible et invisible. Il voit tout. Qu'est-ce qu'il voit ? À l'extérieur, il va voir la même chose que vous et moi. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il entend ? On fait du bruit, vous savez ? Même si on dit rien, on fait du bruit. Spirituellement, il y a quelque chose qui émane de nous. Quel est l'état spirituel de mon cœur ? Quel est l'impact de cette communauté, cette ecclésia, ce groupe ? Quel est son impact dans la cité ? Quel est son impact pour l'édification des membres ? Quel est son impact sur le voisinage immédiat ? Quel est son impact sur l'Église catholique ? Sur l'Église protestante ? Il n'y en a pas ici, mais sur les autres communautés autour qui se réclament d'un Dieu quelconque. Lui, il a de l'impact, hein ? Paul va mettre en avant trois aspects qui sont liés à la conversion spectaculaire des Thessaloniciens. En premier, il va parler des fruits d'une foi vivante. Ensuite, il va parler du pouvoir de transformation d'un évangile qui est annoncée avec puissance, avec l'Esprit de Dieu. Et ensuite, il va parler de l'impact extraordinaire qu'un groupe de croyants peut avoir sur d'autres croyants et sur l'environnement proche. Donc au verset 3, Paul parle de la foi, enfin il rend grâce à Dieu pour la foi vivante des Thessaloniciens. Nous rappelons sans cesse l'œuvre ou les actions de votre foi, le travail de votre charité. Le travail, le terme en grec, c'est kopos, qui est véritablement une expression très très forte qui parle d'un travail intense, de se sortir les tripes en quelque sorte. Et la fermeté de votre espérance, c'est-à-dire la constance, la régularité dans la fermeté, une espérance qui est forte en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Pour Paul, la foi, la charité et l'espérance, ce n'était pas juste des mots. C'était le résultat d'une conversion puissante. Une conversion qui produit non pas de la doctrine en premier, mais des actes. Quelque chose de concret, des actions visibles, et aussi une transformation durable, face aux difficultés, même face à la persécution qui était la situation des Thessaloniciens à l'époque. L'œuvre, le travail de votre foi, le signe le plus évident d'une foi nouvelle, c'est quoi le signe évident de votre foi? Changement d'attitude vis-à-vis de quoi? La paix, la confiance. On croit, ils croyaient avant aussi. On croit. N'est-ce pas? Il y avait, en fait, ce qui se passe quand on vient au Seigneur, c'est quoi? C'est qu'on passe, il y a un transfert de ce qui était notre vie avant à une vie nouvelle. La repentance, on peut l'appeler comme ça. Mais c'est un changement qui est visible. On passe d'un monde qu'on peut qualifier d'ancien à un monde qui est nouveau. C'est une nouvelle naissance, bien sûr. Et Paul, au verset 9, se réjouit de ce qu'ils se sont convertis des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc c'était très facile à l'époque de savoir qu'est-ce qu'était un converti. C'est ceux qui avaient balancé les idoles fabriquées qui désormais adoraient un Dieu qu'on ne voyait pas. Et c'est ça. C'est qu'il s'est passé, et c'est pour ça qu'on peut dire que la conversion est spirituelle. C'est que avant ça, on adore quelque chose qu'on voit, qu'on touche, qu'on fabrique éventuellement, ou qu'on reçoit de sa famille. Et puis ensuite, on enlève tout ça, et on change de lieu, on passe de temple où tout est sacré, tout est destiné à être saint, enfin sanctifié, propre, enfin fait pour les dieux, à un temple qui est intérieur, qui est personnel, et où la réunion de tous ces gens, eh bien, se fait dans une maison. C'était ça qui était visible pour les gens du monde. C'est ça qu'on voyait comme changement chez les Thessaloniciens. Le rejet de leur ancienne façon d'adorer des dieux pour adopter une nouvelle façon d'adorer le seul Dieu vivant et vrai.
Waouh !
À l'époque, ça devait être un sacré changement, quelque chose de notable. Alors vous me direz, mais oui, mais moi, ça ne me concerne pas, moi je ne suis pas un païen, je suis né dans une nation chrétienne, mes parents étaient des chrétiens, peut-être des chrétiens, vrais chrétiens évangéliques. J'ironise un peu. Moi, les idoles de bois, de pierre, tout ça, ça ne me concerne pas. Je n'ai jamais adoré ça. Voilà, je n'ai jamais rendu un culte à un autre dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, que de rendre un culte à un autre dieu ? Eh bien, c'est lorsqu'on passe plus de temps et lorsqu'on donne plus d'énergie et de dévotion à sa carrière, à essayer de trouver de l'argent, des plaisirs, à passer du temps sur les réseaux sociaux, à rechercher la reconnaissance des autres. En fait, toutes ces choses qui veulent prendre la place dans notre cœur et qui veulent reléguer Dieu à une place inférieure. Alors souvent j'entends les gens qui me disent « Oui, mais dans ma vie, Jésus a la première place. » Alors si vous dites ça, ça veut dire que dans votre vie, Jésus a la deuxième place. Ah, ben oui. C'est l'entraîneur qui donne les places, n'est-ce pas ? Dans une équipe de foot. Si vous, vous dites à Jésus, ben, prends la première place, eh bien, il n'a que la deuxième. Donc, ce que le Seigneur aime, c'est qu'on descende de notre position d'entraîneur, qu'on descende du trône de notre vie, et qu'on lui dise, à toi, le trône de ma vie. En tout cas, qu'on lui laisse la place pour qu'il y aille. Le cœur entièrement tourné vers Dieu. C'était ça la vie des Thessaloniciens. Ils s'étaient détournés catégoriquement de leur ancienne vie pour s'engager de façon résolue dans une vie nouvelle. Qui d'entre vous aujourd'hui est à cheval entre l'ancienne vie et la nouvelle vie ? Levez le doigt. Non, non. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Soyons honnêtes. Soyons sincères. Dans votre cœur, levez le doigt. Et dites au Seigneur, « Moi, Seigneur, je suis à cheval entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. » Les amis, je vous rappelle quelque chose. Il ne faut pas beaucoup de temps pour mourir. Et une fois qu'on y est, c'est trop tard. Parce que si vous êtes à cheval entre une vie ancienne et une vie nouvelle, eh bien vous êtes encore dans votre ancienne vie. Vous êtes esclave. Parce que vous vivez la domination de votre ancienne vie sur vos épaules. Parce que jour après jour, cette ancienne vie triomphe de vous. Il y a une chaîne qui parfois est longue et qui vous laisse partir. Et le jour venu, il suffit de ramener la chaîne. Et vous êtes à nouveau entre deux eaux. Le Seigneur veut briser cette chaîne. Le Seigneur veut aussi nous éloigner de nos peurs. Il y a des gens qui ont beaucoup de qualités, des gens qui savent tout faire. Il y a des gens qui sont incroyablement forts. Il y a tout ce qu'on voit, n'est-ce pas ? Mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. Les peurs, les angoisses, les rites culturels, familiaux, les façons de faire, héritées, des parents. Les travers psychologiques. Toutes ces choses, nous pouvons nous éloigner de cela. Nous pouvons laisser ça entre les mains du Seigneur pour qu'il s'en charge. Parce que, n'est-ce pas, cette conversion sincère qui a été celle des Thessaloniciens a fait que Paul a pu dire d'eux, ils étaient un modèle. Et nous avons besoin d'être des modèles. Nous avons besoin que les gens puissent nous voir et dire, mais là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Sans parler, là, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de textes qui appuient ce que je suis en train de dire. Je vais juste en lire un. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Ils s'étaient écartés des idoles radicalement, les Thessaloniciens. Quand Brigitte et moi nous sommes donnés au Seigneur, on a fait le ménage. On a vidé beaucoup de choses qui étaient dans la maison et qui ne glorifiaient pas le Seigneur. On a jeté des disques, c'était des CD à l'époque, les disques étaient avant encore. Des CD, tout ce qu'on percevait qui ne rendait pas gloire au Seigneur. C'est un bon début, mais il y a tellement d'autres choses. Et je vous encourage, aujourd'hui même, à vous asseoir et à écouter ce que le Seigneur vous dit sur vous-même, sur qui vous êtes. Les hommes, parfois, il suffit d'écouter vos femmes. Hein? Ça suffit pour que vous sachiez. Des femmes, parfois, il suffit d'écouter vos maris. Vous n'êtes pas intouchable, hein, faut pas croire. Il y avait aussi le travail de l'amour, le kopos de l'amour, l'intensité mise dans cette notion d'amour qu'on a du mal à comprendre parfois. Et là, il s'agit de l'amour fraternel. Les Thessaloniciens, ce n'était pas l'amour « Bon, celui-là, je ne le déteste pas, donc quelque part, je dois l'aimer. » C'est rigolo, hein, dit comme ça, mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Ne pas détester, c'est pas suffisant pour dire je l'aime. Ce qui montre que vous m'aimez, c'est tout ce que vous allez faire pour moi dans cette journée et dans les jours à venir. Non, mais dans l'assemblée, c'est ça en réalité. C'est ce que je vais faire pour l'autre qui montre l'amour. C'est mon engagement. Le travail qui parfois est pénible. Non, j'ai pas envie de faire ce déménagement. J'ai pas envie. Je suis fatigué. J'ai déjà fait 2 déménagements. Donc je vais pas en refaire un autre. Et là, l'amour ne s'écoute pas. L'amour se lève et va déménager l'autre. Enfin, l'aider à partir à déménager. L'amour, c'est parfois ne pas entendre certaines choses qui sont dites. Mais l'amour, c'est aussi entendre des choses qui ne sont pas dites. L'amour, c'est un travail. Si vous l'apprenez aujourd'hui, je suis désolé, mais votre vie va changer. L'amour, c'est du boulot. C'est un vrai travail. Et si vous voulez avoir un exemple de ce que c'est que l'amour de façon parfaite, eh bien vous regardez ce que Jésus a fait pour vous alors que vous ne lui aviez rien demandé et que même vous ne vouliez pas qu'il s'occupe de vous. C'est ça l'amour. Se sortir les tripes les uns pour les autres. Se soutenir, s'entraider. Ça ne veut pas dire être inquisiteur. Ça ne veut pas dire aller s'occuper des affaires des autres sans y être invité. Comprenez-moi bien. L'amour, c'est aussi savoir garder sa place ou laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais ça implique la générosité. Toutes sortes d'aides vis-à-vis des membres de la communauté, mais aussi vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ceux qui sont dehors. Il y avait aussi donc la fermeté de l'espérance, la constance de l'espérance. C'était ce qui caractérisait, n'est-ce pas, la foi des Thessaloniciens. Ça signifie qu'ils s'engageaient pour Dieu dans un contexte qui était celui de la persécution. Mais qu'ils s'engageaient dans ce contexte-là à fond pour le Seigneur. Ils ne se réfrénaient pas. Ils étaient entièrement dévoués au Seigneur dans un contexte qui ne l'autorisait pas normalement. Et nous, nous sommes dans un contexte où la persécution n'est pas très forte, n'est-ce pas? Je conçois que la persécution peut être spirituelle. Il n'y a pas de problème, je le conçois bien. Mais il y en a pour qui elle est spirituelle et elle est physique. Et là, c'était le cas. Et pourtant, leur foi était ferme. Elle était durable, c'est le mot à la mode aujourd'hui, hein. C'était durable. Elle n'était pas soumise aux aléas des émotions et des difficultés. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je crois que je ne vais pas faire ça. On est comme ça parfois, n'est-ce pas? Et parfois, on se fait avoir. Mais ce n'est pas ça, ce ne sont pas nos émotions qui doivent guider notre foi. Ils vivaient dans l'attente du retour de Christ. Dans l'espérance aussi que leurs proches ne seraient pas laissés pour compte lorsque Jésus reviendra. Et donc, parce que c'était pour eux, c'était une source de joie de savoir que Jésus allait revenir, n'est-ce pas? Mais leur crainte avec tout ça, c'était que leurs proches qui étaient décédés là soient laissés pour compte. Et Paul va les rassurer. Mais surtout, il va leur dire, et ça on le lit plus loin dans 1 Thessaloniciens 4, qu'il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de se lamenter comme les autres qui n'ont point d'espérance. En fait, on n'a pas de raison de se lamenter. Parce que le seul fait de savoir que nous pouvons nous retrouver en l'espace d'une minute dans la présence de Dieu, ça doit réjouir nos cœurs. Il vivait les paroles de Jacques. Dans Jacques 1, vous lisez, « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Je répète, « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Selon la façon dont ces paroles résonnent dans votre cœur, vous pouvez savoir où vous en êtes avec le Seigneur. Peut-être que vous demandez au Seigneur, « Ouais, mais où est-ce que j'en suis avec ma foi ?» Là, vous avez la réponse. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Parce que votre espérance n'est pas dans cette vie-là. Elle n'est pas dans ce moment-là. Elle est dans ce qui va suivre. Alors, je ne dis pas qu'on doit chercher à mourir, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire ça. Et le Seigneur a besoin de nous garder, pour certains d'entre nous ici, un peu plus longtemps. Mais regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ensuite, Paul parle d'un évangile puissant, l'évangile de Dieu. Au verset 5, « Votre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Pour que l'Évangile ait un pouvoir de transformation, il doit être accompagné de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit qui seul est capable de convaincre les auditeurs. Permettez-moi de vous dire que l'Évangile prêché sans la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est l'arme favorite des esprits religieux qui cherchent à imposer un système pacificateur, ou alors même des fois en politique des systèmes de gouvernement théocratique qui vont faire en sorte que les gens vont vivre de façon moralement convenable. Ça peut apporter une bénédiction à un pays de vivre comme ça, parce qu'effectivement les règles bibliques sont bonnes. Mais ça ne sauve pas les gens, en fait. et d'aller en enfer en respectant les règles bibliques, c'est pas vraiment un gain. Mais il y a une grande illusion derrière. L'apôtre Paul était critiqué pour son ministère, pas seulement auprès des Thessaloniciens, mais bien souvent, il était obligé de se défendre. De dire, non, je ne suis pas en train de profiter de vous, je ne suis pas en train de chercher quelque chose de particulier. Je vous annonce simplement le message que Dieu me demande de vous annoncer. L'autorité d'un orateur ne vient pas de ses connaissances bibliques. Qu'est-ce qui donne l'autorité à un orateur ? C'est que lorsqu'il parle, il vous parle de quelque chose qui est issu de sa relation avec Dieu. Et en ce sens, excusez-moi, vous devriez tous être des orateurs et des oratrices. Parce que quand vous me parlez du Seigneur, j'ai pas envie que vous me racontiez des trucs qui viennent de vous. J'ai pas envie que vous me racontiez les dernières nouveautés sur l'interprétation de tel ou tel texte. En fait, je m'en contrefiche. Si vous m'aimez vraiment, parlez-moi du Seigneur, de ce qu'il a fait dans votre vie, de ce qu'il vous a dit à vous, qui vous a fait vibrer. Qui vous a fait changer. Qui vous a fait changer d'avis. Parce que vous étiez tellement têtu depuis des années à toujours penser et imaginer faire les choses d'une certaine façon. Et tout d'un coup, le Seigneur vous a parlé et vous avez changé. J'ai besoin d'entendre ça. Parce que moi, je suis têtu. Donc j'ai besoin qu'un autre têtu qui a été transformé par le Seigneur me parle. Il me dit, tu sais, c'est possible pour un têtu d'être sauvé de sa, comment on dit, têtuité, son obstination, merci. Si vous avez un péché particulier, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser et que tout d'un coup le Seigneur a fait quelque chose, parlez-moi-en. Dites-le-moi. L'Évangile vous ayant été prêché en parole, pas seulement en parole, mais avec puissance. Une puissance qui transforme. La meilleure preuve de l'apostolat de l'apôtre Paul, eh bien, c'était les fruits qu'il laissait derrière lui. Quelle trace, quelle empreinte est-ce que nous laissons sur cette terre? Alors, si je pose la question comme ça, vous allez réfléchir, vous allez dire, alors qu'est-ce que je peux laisser sur la terre qui va montrer que j'étais quelqu'un de... qu'on pouvait écouter, quelqu'un... J'ai beaucoup réfléchi sur le concept de trace, d'empreinte. Et toute une partie de ma vie, j'ai voulu laisser une empreinte. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas voir mon empreinte sur la terre. Il voulait voir la sienne. et voulez que tous ceux qui lui appartiennent soient dans cette empreinte-là. Et que la seule empreinte qu'on pourra voir, c'est effectivement la sienne. J'ai partagé ça avec Michael là, il y a quelques jours, lorsque j'étais enfant, encore aujourd'hui d'ailleurs, je suis enfant, oui, enfin, lorsque j'étais enfant, j'adorais voir la neige tomber. Et j'adorais lorsque ça durait longtemps, et que peu à peu se couvrait le sol. Et vous avez déjà vu, n'est-ce pas, la neige efface tout ce qui est laid, tout ce qui est anguleux, tout ce qui a une forme qui fait peur. Elle couvre et elle adoucit les angles. Et ça monte. Et en Alsace, parfois, on a des grandes quantités de neige. Et ça réjouissait mon cœur. Et le lendemain matin, j'ouvrais les volets et je voyais que des gens ignobles avaient marché dedans. Ils avaient laissé des traces dans la neige. Et certains avaient roulé avec leur voiture. Et tout était en train d'être transformé, de devenir sale. Le Seigneur ne veut pas que nous laissions de traces. Il est la trace. Mais la puissance, n'est-ce pas, qui accompagnait Paul l'avait permis des conversions extraordinaires, radicales. De fait, les Thessaloniciens se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et c'était ça, n'est-ce pas, la carte de visite de l'apôtre Paul. Les gens se détournent des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Bien-aimés, si ce matin, certains d'entre vous se détournent de leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, waouh! Alors, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Le message de l'Évangile, ce ne sont pas juste des mots, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le message d'un homme. On peut donner le message de l'Évangile comme une simple information, on peut utiliser la Bible pour argumenter, utiliser des versets pour prouver nos convictions. Mais réellement, le texte biblique ne nous a pas été donné pour cela. Pourquoi est-ce qu'on a eu un texte biblique? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que nous ayons un livre, que nous puissions lire ce livre ou l'entendre? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu ça? Pour le connaître. Mais pourquoi le connaître? Pour mieux l'aimer. C'est pas pour faire valoir vos idées. N'est-ce pas? C'est pas pour vous dire, non mais moi je suis baptiste, alors c'est ça qu'il faut lire. Ou moi je suis pentecôtiste, c'est ça qui est juste. Ou moi je suis des assemblées de frères. Vous imaginez les conversations là-haut? Ah non, non, lui, avec lui, je ne vais pas, hein, au ciel. Ah non, lui, Seigneur, tu l'as pas accepté, lui, quand même. Vous imaginez? On ne peut pas utiliser la Bible pour faire valoir ses idées, sa dénomination. On ne peut pas. C'est pour mieux connaître Dieu, pour mieux l'aimer. C'est tout. C'est pour avoir des certitudes inébranlables sur Dieu, sa capacité, son amour pour nous. Et le Saint-Esprit vient et il nous dit, Dieu t'aime, tu peux l'aimer. Tu as le droit d'aimer Dieu. Tu as le droit d'aimer Dieu. Tu as le droit de parler de Dieu. Tu as le droit de lire, de comprendre et de transmettre. Tu peux lire et édifier. Édifier l'Église en toutes circonstances. Et puis, il y avait le témoignage de l'Église au verset 7. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. L'Église de Thessalonique, 3 semaines, un modèle pour les autres églises, depuis plus longtemps, présentes peut-être. Ils étaient un exemple pour les autres chrétiens. Comment est-ce que l'Église ici peut être un modèle de foi, d'amour ? Dans un monde qui est sceptique, un monde qui est peu intéressé par le message. Comment est-ce que nous pouvons inspirer d'autres croyants? N'est-ce pas, aujourd'hui la tendance c'est de vouloir tirer la couverture à soi, pas d'inspirer les autres. Mais là, Paul dit, vous êtes un modèle pour les autres croyants. Leur manière de vivre l'Évangile, leur conversion radicale, leur persévérance dans la persécution, leur ferme espérance servait d'inspiration et de référence pour les autres communautés chrétiennes naissantes dans la région. En fait, ils incarnaient ce que signifiait tout simplement être un disciple de Jésus. Et être un disciple de Jésus, c'est nécessairement œuvrer dans un environnement qui est difficile. C'est plus ou moins difficile selon les périodes, mais c'est toujours difficile d'être un disciple. Toujours. Mais l'impact le plus évident, ça a été leur rôle dans la diffusion de l'Évangile. Paul note que la parole du Seigneur a retenti. C'est un terme choisi, n'est-ce pas? La parole a retenti. Qu'est-ce qui retentit? Les gongs énormes, vous avez déjà vu ces gongs? Et vous avez un type avec une... je sais pas... une quoi? Une massue qui tape là-dessus et ça retentit. Il y a un effet de réverbération qui est absolument extraordinaire. A retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Ça signifie que le message de la foi est passé. Mais il est passé avec conviction. Il est passé de façon forte. Il n'y avait pas de doute sur ce message. Et la nouvelle de la conversion de ces gens leur changement de vie radical, n'est-ce pas ça? Ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit autour d'eux. Et ça a suscité l'intérêt pour entendre le message de l'Évangile. Pour les gens avaient envie d'écouter. À tel point que Paul n'avait pas besoin d'expliquer ce qui s'était passé. Il suffisait qu'ils disent « Je viens de Thessalonique » et tout le monde comprenait de quoi il parlait. Ah oui, cet endroit où il s'est passé tant de choses, où les gens ont été tellement transformés, c'est de là qu'il vient et c'est de là qu'il nous parle. Tout le monde était au courant. Bien-aimés, nous pouvons demander au Seigneur de faire de nous des propagateurs actifs et influents de l'Évangile. Nous pouvons prier pour que le Seigneur fasse de nous des modèles spirituels, capables de diffuser spontanément la parole du Seigneur. Nous pouvons prier pour que notre foi soit reconnue comme étant issue de la puissance transformatrice de l'Évangile. Mais tout ça, ça ne fera pas d'effet si nous négligeons la recommandation que Paul fait aux Thessaloniciens dans le chapitre 5, qui est de veiller. Vous lire tout le chapitre 5. Veillez et de rester sobre pour ne pas être surpris lors du retour du Seigneur. De veiller et de rester sobre pour ne pas être surpris lorsque le Seigneur reviendra. Et Paul exhorte à l'édification mutuelle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous lisez les Épîtres, Paul parle tout le temps d'édification et bien souvent d'édification mutuelle. Il considère que la foi se partage, pas seulement par un seul orateur, mais par tous ceux qui connaissent le Seigneur. Tous ceux qui connaissent véritablement le Seigneur doivent partager pour édifier leurs frères. Édifier leurs sœurs, édifier les enfants. C'est un véritable fil rouge chez Paul. Si vous voulez faire une étude biblique, eh bien faites-le là-dessus. L'édification mutuelle. Paul ne parle que de ça. 1 Corinthiens 12, 13, 14 ne parle que d'édification dans l'assemblée. C'est pour ça qu'il faut aimer. Il faut aimer, parce que des fois, il y a des gens qui disent des trucs qui ne nous plaisent pas. Mais on les aime. L'enseignement, le partage de la parole de Dieu ne peut pas être le travail d'une seule personne. Sinon, vous n'avez qu'une personne qui est édifiée. C'est le prédicateur. Parce qu'évidemment, lui, en cherchant dans la Bible et tout, ben, il s'édifie lui-même. Et puis il va édifier une assemblée, mais une assemblée qui sera consommatrice et pas participante. Vous avez la responsabilité d'édifier aussi. J'ai bientôt fini. Je dis ça. Pour Paul, l'attente du retour de Christ doit se faire dans le cadre de la vie communautaire. C'est-à-dire qu'on doit tous être en train d'attendre la même chose, en même temps, pour que certains ne s'endorment pas, alors que d'autres sont éveillés. Et c'est pour ça que l'édification mutuelle est importante. Christ ne reviendra pas peut-être dans une heure, peut-être seulement dans une semaine ou dans un mois, ou dans 10 ans. Mais il peut revenir à chaque instant. Et chacun doit contribuer à l'édification de son prochain. 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Comme en réalité vous le faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul leur demande de continuer ce qu'ils étaient déjà en train de faire et qui est à la base de ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire un modèle pour les autres. Ça a contribué à faire d'eux des modèles. Et j'aimerais, pour finir, donc continuer, redire ce que j'ai déjà dit. Il faut que vous soyez de ceux qui édifient. Il faut que je puisse entendre de vous un message qui va me faire du bien, qui va me garder éveillé, qui va me donner de la force parfois lorsque j'en ai besoin, qui va me redonner courage lorsque je suis découragé, qui va parler à mon cœur de la part du Seigneur lorsque j'ai l'impression que le Seigneur est sourd, qu'il n'entend pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'Église, c'est le fait d'être ensemble, dans une communauté, avec le Seigneur qui est sur le trône. L'autre fois, j'ai vu une vidéo, le gars se présente, pasteur adjoint, machin truc, et il dit, parce que le vrai pasteur, c'est Jésus. On est tous des pasteurs adjoints, on n'est pas des pasteurs. Et le pasteur de la communauté, c'est le Seigneur Jésus. Et nous sommes les pierres vivantes. Les pierres vivantes. Comme le Dieu vivant est vrai. N'est-ce pas? Nous partageons ça avec Dieu, être vivant. Alors, vivons la communauté. Vivons l'encouragement, vivons les paroles de connaissance. Ne soyons pas intrusifs, mais avec amour. Il faut juste parler, partager, édifier. J'ai dit édifier, n'est-ce pas? J'ai pas dit descendre quelqu'un. Et les gens, c'est des spécialistes de la descente. Il y a des gens, ils descendent quelqu'un et ils pensent qu'ils l'édifient. Alors, à de très rares exceptions, ça peut être vrai, mais c'est très rare. Prenez le temps d'aimer celui qui est à côté de vous, c'est-à-dire de travailler pour lui, pour son édification. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie pour moi et chacun de mes frères et sœurs ici. Seigneur, que ces paroles puissent s'installer dans le cœur et faire ton œuvre. Seigneur, que ton peuple soit éveillé, prêt à te rencontrer, prêt à ce que tu viennes d'une façon ou d'une autre. Et Seigneur, nous pourrons alors nous réjouir tous ensemble à tes côtés. Que ton nom soit béni.